monumental.
Bonjour. Ça va, la réception?
Oui, à la réception, tout fonctionne parfaitement, adéquatement.
Ah, ben voilà mon invité, je l'accueille. Mmh.
Bonjour,
monsieur Robert.
Comment allez-vous?
Et vous?
Ça va, merci.
Plaisir de vous voir.
Oui, ça fait...
C'est tout bon, vous avez laissé votre voiture, oui. Le petit pas papier, vous avez le badge pour entrer. C'est accrédité, on peut y aller.
Très bien.
Je vous en prie.
Merci.
Bonjour Marlène.
Bonjour.
Ça va?
Oui,
on
bien.
On vient prendre un petit café.
Mais c'est très bien.
Alors, expresso. Puis après, on va se rendre en studio. Vous connaissez les lieux, c'est bon?
Oui, j'étais déjà une fois ici. Déjà vu.
Voilà. Est-ce que vous prenez quelque chose dedans?
Non, ça va.
C'est bon.
Du sucre, oui.
Alors, bon café, monsieur, dame. Et bonne
merci.
Journée.
Merci.
Alors, nous voilà en studio. Le micro. Là. Bien là. Bon, il y a pas mal de choses à dire.
Oui. Donc, une longue liste.
Une longue liste. On va pas perdre de temps, on va y aller.
Ok.
37 degrés, 58 minutes de latitude nord. 23 degrés, 43 minutes de longitude est. Localisation, l'Acropole d'Athènes, Grèce.
Monumental. Monumental. Joanne Ducey, Marc Frochot.
Bonjour, mon nom est Karl Reber, je suis archéologue d'origine balois. Je suis depuis 2005 professeur d'archéologie classique à l'Université de Lausanne et directeur de l'école suisse d'archéologie en Grèce.
La première fois sur le site de l'Acropole, vous vous en souvenez?
Oui, c'était, je pense, si je me rappelle bien, en 1976, où j'ai fait un petit voyage en Grèce en tant qu'étudiant à cette époque-là. Et naturellement, j'ai visité l'Acropole. C'était tout à fait différent d'aujourd'hui parce que tout était ouvert. Aujourd'hui, on ne peut plus entrer dans le Parthénon ou dans les bâtiments. À l'époque, tout était ouvert. On entrait, on regardait tous depuis près. Et ça, c'est un très bon souvenir que j'ai parce que malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Bien sûr, nous sommes en Grèce, bien sûr, vous le reconnaissez, fièrement campé sur l'Acropole, le sanctuaire d'Athéna Parthénos, le Parthénon.
L'Acropole d'Athènes, c'est en fait un plateau rocheux et c'est au centre de la ville.
En effet, le mot Acropole, c'est un mot grec qui est composé de deux mots, acro et polis. Acro veut dire le sommet, le haut. Polis, c'est le mot pour la ville. Donc, l'Acropole est tout simplement le sommet de la ville ou le haut de la ville. Maintenant, les villes grecques ont été fondées très souvent autour d'une colline, donc qui a toujours servi comme Acropole pour cette ville. Chaque ville, ou presque chaque ville antique en Grèce, dispose d'une Acropole. En effet, l'idée était d'avoir un lieu où on pouvait se retirer au cas de danger. Donc les acropoles étaient fortifiées et quand il y a une guerre, autre danger, le peuple de la ville est monté sur l'acropole pour s'y retirer.
Ce site, c'est l'un des plus visités au monde.
Oui, ça, je pense, on peut le dire. Il y a, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres, mais il y a chaque année des millions de touristes qui vont passer là. Donc c'était aussi donc la raison pour laquelle on a fermé ces bâtiments pour le public. On peut plus y entrer. On peut aller autour du Parthénon, mais pas entrer à l'intérieur.
Et voici le Parthénon, temple dorique, périptère, entouré d'un portique de colonnes, à entablement dorique, rectangle long de 69 mètres 51, large de 30 mètres 86. Le Parthénon contenait le trésor de la déesse et le trésor public. Ses colonnades extérieures ont été restaurées en 1930. Quelques bas-reliefs sont en place, les autres sont au musée de l'Acropole, à Athènes, au Louvre de Paris et au British Museum de Londres. C'est Lord Elgin, en 1816, qui emporta presque toutes ses sculptures en Angleterre.
Monumental, aujourd'hui, l'Acropole d'Athènes.
On l'a tous en tête, on a tous cette image du Parthénon en tête. De quand date-t-il ?
Alors, heureusement, nous avons des dates précises. Donc, il a été construit entre 447 et 438. Ensuite, entre 438 et 432, on a encore terminé la décoration, les sculptures. Donc, c'est une période relativement courte, une dizaine d'années, pour la construction de l'architecture. Nous connaissons les dates grâce à un système assez intéressant parce que les Grecs ou les Athéniens, il faut dire, ont changé le gouverneur ou le maire de la ville d'Athènes, il a changé chaque année. Et ce magistrat, on l'appelle Archon éponyme, donc un archon qui a donné son nom à l'année. Donc, prenons un exemple d'aujourd'hui, le Conseil d'État du canton de Vaud. On aurait une année Pascal Broulis. Et l'année prochaine, on aurait une année Catherine Lyon, ou je sais pas. Et nous avons, heureusement, les listes de ces archontes. Donc, nous pouvons voir à quel moment, quel archonte était à la tête de la ville. Et maintenant, nous avons aussi retrouvé des inscriptions qui nous renseignaient sur la construction du Parthénon. Donc, chaque année, on a fait une inscription qui dit tel et tel moment on a construit telle et telle chose, avec tel et tel entrepreneur, à tel et tel prix, etc. Donc, nous avons des informations assez précises et ces inscriptions commencent chaque fois avec la phrase « donc à l'année où tel et tel était archon ». Et comme ça, nous pouvons reconstruire donc toutes ces phases de construction.
Qui a souhaité l'édifier, ce temple ?
C'est Périclès, le fameux stratège d'Athènes. Donc j'ai dit que l'archon, il change chaque année. Périclès lui-même, il était stratège, donc c'est une autre position. Et on pouvait réélire les stratèges chaque année. Donc, il est resté à son poste pendant plusieurs années. Il a accumulé un certain pouvoir, ce qui lui a permis de proposer la construction du Parthénon et aussi de la réaliser. Il a utilisé pour faire ça deux sources. Donc, une source, c'était les mines de l'Avrion, les mines d'argent qu'on a exploitées et puis qu'on a utilisé l'argent pour financer le bâtiment. L'autre source, c'était la caisse de la Ligue Attictélienne. C'était une ligue qui a été, une confédération qui a été fondée après les guerres médiques, sous la direction d'Athènes, et ont participé presque toutes les villes grecques. Et chaque ville a donné une certaine somme chaque année dans une caisse commune. Et cette caisse commune a été fondée pour au cas où les Perses reviennent en Grèce, qu'on aurait une caisse de guerre, tout simplement. Et au début, on a déposé cette caisse dans le sanctuaire d'Apollon sur l'île de Délos, donc une des îles des Cyclades, qui était une place neutre, protégée par une divinité. Et ensuite, Périclès, au milieu du 5e siècle, il a décidé tout simplement de prendre cette caisse à Athènes et de s'en servir et puis de financer une partie de la construction du Parthénon.
Dédié donc à Athéna.
Athéna, mais pas à Athènes apolliante. Là, il faut faire attention parce que chaque divinité a plusieurs fonctions en Grèce. Donc, il y a une Athéna polias qui est la divinité polliante, qui a été vénérée d'abord dans le vieux temple détruit par les Perses et ensuite dans le Erechtheion qui est à côté du Parthénon. Et à côté, il y a ce que nous appelons la Athéna Parthénos. Mais la Athéna Parthénos n'a jamais eu un culte. Donc le Parthénon n'est pas un temple dans le sens conventionnel du terme.
Phidias a créé pour le temple la statue la plus somptueuse et la plus imposante qui soit. Elle représentait la déesse Athéna à laquelle était dédié le monument. C'était un chef-d'œuvre d'or et d'ivoire. Une statue si extravagante qu'elle a coûté plus de la moitié du budget du Parthénon tout entier. Du haut de ses 12 mètres, la statue d'Athéna dominait l'intérieur du temple et saisissait tous ceux qui venaient la vénérer.
La statue d'Athéna était recouverte de plus d'une tonne d'or. La réalisation de ce seul plaquage d'or a coûté légèrement plus cher que la construction de l'ensemble de l'édifice du Parthénon.
Donc le culte pour Athéna polliante s'est passé dans le vieux temple, ou plutôt devant le vieux temple où il y a eu l'autel d'Athéna.
Et elle, c'était la déesse de
Parthénos, c'est la Vierge. Hein. Nous savons que dans les cultes d'Athéna sur l'Acropole, les femmes vierges ont joué un certain rôle pour la vénération d'Athéna. Mais en effet, l'Athéna Parthénos était... on a aussi fait une statue à l'intérieur du Parthénon, de l'Athéna Parthénos, mais qui n'était pas une statue de culte, mais une offrande. Donc une offrande prestigieuse, parce que c'était une œuvre chryséléphantine, donc fabriquée en ivoire et en or. C'était vraiment une divinité à part, qui a été juste vénérée. Maintenant, il faut, je pense, parler un peu de la fonction du Parthénon. Comme j'ai dit, c'était pas un temple dans le sens strict du terme, mais je dis toujours, c'était la Banque nationale d'Athènes. Donc Périclès a pris la caisse de la Ligue Athictélienne de Délos à Athènes. Et après la construction du Parthénon, on a déposé cette caisse à l'intérieur du Parthénon. Ensemble avec le trésor monétaire de la ville d'Athènes. Des banques n'existaient pas à cette époque. Donc il fallait trouver une solution pour que l'argent d'une institution ou d'une ville a été protégé. Et ça se passait donc à l'intérieur d'un bâtiment sacré sous la protection d'une divinité. Et ça, c'était en fait la fonction du Parthénon.
Il y a beaucoup d'argent.
Pas mal d'argent, je pense. Bon, on a certaines sources qui nous renseignent sur l'or qui était donc appliqué à la statue d'Athéna Parthénos, donc une statue assez haute, 11 mètres de hauteur. Et on a des sources qui parlent de plus de 40 talents. Donc, pour comparer un talent, c'est un poids de à peu près 25 kilos aujourd'hui. Donc, ça fait plus que 1000 kilogrammes d'or qui ont été appliqués sur cette statue. Et là aussi, cet or donc a servi comme une sorte de réserve, comme notre Banque nationale de la Suisse a une réserve en or. De nouveau, au cas de danger, pendant une guerre, on pouvait se servir. Aujourd'hui, on dirait on achète des avions Gripen, mais à l'époque, c'était plutôt des bateaux, des navires qu'on a achetés avec cet argent, donc des bateaux de guerre, naturellement.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette statue magnifique d'Athéna ?
Nous savons que cette statue a été prise par les empereurs romains à l'époque où l'Empire romain, donc la capitale de l'Empire romain était à Constantinople, donc au cours du 5e siècle après Jésus-Christ. Elle a été prise d'Athènes et on l'a transportée à Constantinople. Là, nous avons encore des sources qui en parlent jusqu'au 10e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, on n'a plus de sources, donc on ne sait plus exactement ce qui s'est passé. Probablement, elle a été détruite. L'or a été déjà pris avant, donc déjà au 3e siècle, avant Jésus-Christ, un gouverneur athénien a pris l'or pour financer une guerre et il a remplacé l'or par des plaques en bronze, probablement dorées, mais naturellement avec beaucoup moins de valeur que comme ça c'était avant le cas.
Donc elle a été détruite, donc c'est impossible de retomber dessus par hasard lors de fouilles sur certains sites.
C'est pas exclu, hein. On ne sait jamais. Comme j'ai dit, on n'a aucune source qui nous renseigne ce qui s'est passé. C'est bien possible qu'elle est quelque part sous un bâtiment à Istanbul. À un moment donné, on va retrouver au moins des parties de cette statue. Ça c'est pas exclu.
Monumental.
Dominique A, les enfants du Pirée.
De bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant, griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent, et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu, que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu, que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que les filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu, que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu, que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du.
Information routière sur la première.
Infotrafic RTS.
Soyez prudents si vous circulez sur la Une, Moraille-Verdon. On signale des objets sur les voies de circulation entre l'aire de service Rose de la Broye et le tunnel de Bruyères-Châble en direction d'Yverdon.
Monumental, aujourd'hui, l'Acropole d'Athènes.
Ce miracle grec se concentre dans un lieu mythique bien localisé, l'Acropole, et s'incarne dans un édifice archétypal, le Parthénon. Quand je vis l'Acropole, dit Ernest Renan, j'eus la révélation du divin. Il y a un lieu où la perfection existe, le miracle grec, une chose qui n'a existé qu'une fois, mais dont l'effet durera éternellement.
Pour construire le Parthénon sur l'Acropole d'Athènes, est-ce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers ?
Des centaines, oui. Oui.
Karl Reber, directeur de l'école suisse d'archéologie en Grèce.
Donc, si on imagine que le Parthénon a été construit pendant 10 ans, qui est relativement courte pour une construction d'un temple d'une telle monumentalité, donc il faut imaginer qu'il y a eu des centaines d'ouvriers, qui étaient naturellement des esclaves aussi, des artisans, des artistes, etc. Donc il y avait tout un grand groupe de personnages qui ont été occupés.
Avec des dimensions de 69 mètres de long sur 30 mètres de large, il nécessita des milliers de tonnes d'un marbre au prix exorbitant. Qualifié de pierre scintillante, il est choisi dans des carrières qui existent encore aujourd'hui sur le mont Pentélique, à une dizaine de kilomètres d'Athènes. Il fallait ensuite trouver un système pour hisser les énormes tambours de colonnes le long des pentes abruptes de l'acropole.
L'acropole est située très haut au-dessus de la ville. Il leur a été difficile d'employer des charrettes pour monter les tambours de colonnes jusqu'ici. Ils ont probablement utilisé un système inventé plus d'un siècle auparavant, un cadre de bois fixé autour du tambour. Attelé à des bœufs, ils pouvaient hisser les pierres au sommet. Ça ressemblait à une sorte de rouleau compresseur.
Quand on voit l'édifice, on ne peut s'empêcher de penser à la manière dont ils ont travaillé. Est-ce que sur ce sujet, on en sait quelque chose ?
En fait, c'est pas tellement différent de ce que nous faisons aujourd'hui. On a utilisé des instruments comme aujourd'hui, des marteaux, des ciseaux. Ce qu'on n'avait pas, c'est les machines, ça c'est clair. Mais on a construit des grues pour lever les pierres jusqu'à l'hauteur qu'il fallait. Donc l'hauteur du Parthénon est à peu près entre 14 et 15 mètres de hauteur. On a taillé les pierres à la main, comme j'ai dit, avec marteau et ciseaux. Donc, c'est des techniques qu'on utilise encore aujourd'hui.
Mais le génie caché de la construction repose sur la compréhension de la perspective qu'avaient les Grecs de l'Antiquité, qui n'a été surpassée qu'à la Renaissance.
On dit souvent qu'il n'y a pas une seule ligne droite dans le Parthénon. Ce n'est pas tout à fait juste. Certaines lignes paraissent droites alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Sur cette architrave qui surmonte les colonnes, par exemple, le centre est surélevé de 6,5 cm par rapport aux deux extrémités.
À chaque stade de la construction, les architectes ont corrigé la moindre distorsion optique pour que le temple ait une apparence parfaite.
Le Parthénon, c'est un édifice connu pour être une prouesse architecturale. À savoir le système de correction optique, qui fait encore beaucoup parler de lui aujourd'hui. C'est un système finalement qui donne l'impression visuelle que le bâtiment est parfait. Expliquez-nous.
Oui, en effet. Il y a des lignes horizontales et des lignes verticales, les colonnes. Et si on construit un bâtiment qui a une longueur de 70-80 mètres, si on se pose devant, c'est notre œil humain qui fait qu'on a l'impression que les coins sont plus hauts que le centre. C'est juste une question d'optique. Et pour corriger ça, les Grecs ont construit le Parthénon dans une certaine convexité. Donc le centre des fondations est à 6 jusqu'à 10 cm plus haut que les coins, si on met sur les niveaux. Donc ça fait une courbe légère qui n'est presque pas visible de l'œil, mais qui fait que notre œil a l'impression que le bâtiment est construit horizontal, sur une ligne parfaite horizontale. Et la même chose, on a fait naturellement pas seulement dans les fondations, mais aussi dans la charpente, dans l'architrave est aussi incurvée. Les colonnes sont inclinées vers l'intérieur. Il y a encore un autre élément, c'est que chaque colonne est légèrement renflée au tiers de la hauteur. Parce que nous savons que les colonnes sont normalement plus larges en bas qu'en haut, mais si on les construit avec une ligne droite, de nouveau, l'œil humain a l'impression qu'il y a donc un étranglement dans la partie bas de la colonne. Et c'est à cause de ça qu'on a légèrement renflé cette colonne.
Les bâtisseurs de la Grèce antique n'ont rien laissé au hasard.
En effet, on peut résumer en disant qu'il n'y a aucune ligne droite au Parthénon et il n'y a aucun angle rectangulaire. Ça n'existe pas. Ce qui a naturellement l'avantage maintenant pour ceux qui ont restauré le Parthénon, parce que c'est même donc les blocs avec lesquels on a construit le mur de la cella ne sont pas rectangulaires, mais d'une forme trapézoïde. On ne peut pas changer les blocs. Chaque bloc a une place seulement où c'était possible de le poser. Et donc, pour restituer ou reconstruire le Parthénon, avec un bon œil d'un architecte et donc des mesurements précis, on peut dire exactement ce bloc-là, il était sur la troisième ligne, cinquième bloc à gauche du mur nord, par exemple. Et nous avons eu donc la chance que le directeur des restaurations du Parthénon, c'est un architecte grec qui s'appelle Manolis Kores, qui a eu l'œil précis. C'est le seul homme du monde entier qui connaît chaque pierre sur l'acropole et qui sait exactement où la placer.
Est-ce que cette technique de correction optique va être utilisé pour d'autres monuments?
Oui, donc le Parthénon n'est pas le premier bâtiment qui a utilisé ces techniques, ça c'était déjà connu avant, et puis on l'a utilisé aussi après chaque fois dans une manière un peu différente du Parthénon, même les fameux temples en Sicile, à Selinonte par exemple, sont construits de cette manière-là.
Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait le Parthénon à la fin des travaux? Il était différent de celui que l'on voit aujourd'hui, je pense.
Oui, différent. Pas tellement différent. Il y a que certains parties qui manquent. Hein. Donc, il faut imaginer sur une côté 8, sur l'autre côté 16, 17 colonnes. Il y avait à l'intérieur une cella fermée. Donc, c'est l'intérieur du sanctuaire du temple. Avec deux pièces, une pièce qui a servi comme j'ai dit, comme la caisse de la banque d'Athènes, ou pour déposer l'argent d'Athènes, et la deuxième pièce dans laquelle a été posée cette fameuse statue d'Athéna Parthénos. Ensuite, donc ces parties étaient fermées par des portes en bronze, donc bien protégées. Et ensuite, donc, il faut imaginer qu'il y a une toiture en marbre, avec des tuiles en marbre, qui était tellement mince que donc la lumière du soleil pouvait pénétrer, et entrer et illuminer l'intérieur de la cella du Parthénon.
Ça devait être de toute beauté.
Oui, bien sûr. Ouais. Donc les Américains ont fait quelques reconstitutions où on peut un peu imaginer ce que c'était à l'époque.
Le Parthénon va, à un moment donné, changer d'affectation. Qu'est-ce qu'il s'est passé au cours de l'histoire?
C'est le destin de tous les temples grecs, soit qu'ils s'étaient détruits à un moment donné, ou soit qu'ils s'étaient transformés en église chrétienne. Et la même chose pour le Parthénon. Donc d'abord, on a fait un réaménagement pour y installer une église chrétienne. Ensuite, les Turcs ont pris la Grèce au cours du 15e siècle. Et naturellement, là, ils ont transformé le Parthénon, ou cette église dans le Parthénon, en mosquée. Donc, ils ont construit un minaret. Ça, c'était en fait bien pour le Parthénon, parce qu'il faut imaginer jusqu'au 17e siècle, le Parthénon était encore intact, plus ou moins, hein. Donc avec certains réaménagements. Jusqu'au moment où, en fait, cette fameuse guerre de Morée, où les Phéniciens ont attaqué les Turcs. Et les Turcs se sont retirés sur l'acropole d'Athènes. Et malheureusement, ils ont déposé le poutre pour leur canon à l'intérieur de cette mosquée, donc à l'intérieur du Parthénon. Et un pauvre lieutenant de l'armée phénicienne a simplement jeté une boule de canon exactement sur ce dépôt de poutre. Donc le Parthénon a explosé et puis a fait ces dégâts qui sont encore visibles aujourd'hui.
l'un des temples les mieux conservés du monde, se trouva réduit à quelques décombres.
Mais on l'a reconstruit quand même par la suite.
Oui, on a reconstruit, mais pas tout. On a quand même laissé, on ne va pas reconstruire toute la toiture, par exemple.
Même sous sa forme actuelle, une ruine de marbre à la beauté austère, le Parthénon conserve cette présence qui n'a cessé d'inspirer artistes, philosophes et poètes. Et ces sculptures d'origine, dont la beauté fut l'objet de toutes les convoitises, n'ont pas résisté au pillage.
Monumental, aujourd'hui, l'Acropole d'Athènes, avec Karl Reber, professeur d'archéologie classique à l'Université de Lausanne.
Le monument va être aussi à une époque dépossédé. Il y a des gens qui vont venir sur le site et se servir.
Voilà, donc vous parlez notamment de Lord Elgin, le fameux ambassadeur britannique au cours des Osmanes en Turquie. Donc comme je vous ai dit, à partir du XVe siècle, la Grèce a été gouvernée par les Turcs. Donc Athènes était sous le pouvoir des Turcs. Lord Elgin a demandé un permis auprès du gouvernement turc qui était responsable à l'époque. Il a reçu ce permis, donc il a pris les marbres pour les transporter en Angleterre. Donc maintenant on peut commencer à discuter sur la légalité de cet acte, mais ça c'est une question plutôt pour les juristes que pour les archéologues. Lord Elgin n'était pas le seul. Il y a aussi eu des autres marchands d'antiquités qui ont acheté des sculptures du Parthénon et qui l'ont ensuite transporté au Louvre, à Paris par exemple, ou dans des autres musées. Je peux dire que même ici à Vevey, dans le musée historique, on a un tout petit morceau de l'Erechtheion de l'Acropole. C'était un marbrier veuvaisan qui s'appelle Doré, David Doré, qui a fait des voyages en Grèce, en Italie, en Égypte, et qui a collectionné en fait des pierres qu'il a trouvées. Donc il a trouvé tout un petit morceau d'une frise de l'Erechtheion qui se trouve aujourd'hui au musée historique à Vevey.
C'est quelle période ces gens venaient finalement sur le site pour...
Donc Lord Elgin, c'est au début du 19e siècle. Bon, l'archéologie est née en fait déjà à l'époque de la Renaissance, où on a commencé à s'intéresser pour le passé de la Grèce. On a commencé à constituer des collections d'antiquités. Mais tout ça s'est passé en Italie. Et ces collections d'antiquités de cette époque-là, c'était que des statues et des objets de l'époque romaine, qui étaient très souvent des copies d'originaux grecs. Donc, le premier archéologue classique, on dit, c'était Johann Jakob Winckelmann, qui a vécu au XVIIIe siècle. C'est le premier qui a publié en fait un livre scientifique sur l'art grec, mais qui a travaillé sur la base de ses copies romaines. Lord Elgin, au moment où il est arrivé à Londres avec toutes ses sculptures, c'était une grande sensation à l'époque parce que c'était pour la première fois qu'on a vu au nord de l'Europe des vrais originaux grecs. Et ça, il faut imaginer que parce que, en fait, ça c'était quelque chose qui était tout à fait important parce que c'est le moment juste avant la guerre de l'indépendance de la Grèce contre la Turquie. Et cette guerre d'indépendance a été soutenue par l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la Russie, etc. Et je pense que au moment où on a vu ces originales grecques qui étaient une beauté sans pareil, ça a aussi aidé à créer donc ce mouvement, ce que nous appelons le philhellénisme, où tous ces pays de l'Europe du Nord ont soutenu la Grèce pendant cette guerre de l'indépendance.
Ces originaux, qui sont maintenant dans le nord de l'Europe, ils sont régulièrement, et ça fait un moment, régulièrement réclamés par la Grèce. Ouais. On se souvient par exemple du combat de Mélina Mercouri.
Donc ça, c'est devenu naturellement une question diplomatique, où je peux vous aussi donner une réponse diplomatique. Je comprends en fait les deux côtés. Hein. D'une côté, on peut dire que le Parthénon et l'Acropole en entier, c'est un symbole d'identité pour la Grèce. Et Mélina Mercouri à l'époque, que j'ai rencontré plusieurs fois quand j'étais secrétaire scientifique de l'École suisse d'archéologie en Grèce, et j'ai vécu à Athènes, qui a fait douce pour que la Grèce reçoit à un moment donné ses statues. Notamment, cette question est de nouveau actuelle parce que dans une époque de crise, comme maintenant, il faut avoir des symboles d'identité, ça c'est clair. Les Anglais ont toujours dit, il n'y a pas de place en Grèce, hein, parce que l'ancien musée de l'Acropole était tout petit. Aucune place pour les exposer, mais entre-temps, les Grecs ont construit un grand musée nouveau où il y a la place déjà réservée pour ses originaux. Maintenant, c'est encore des copies en plâtre, mais à un moment donné, les Grecs espèrent qu'ils peuvent exposer naturellement les originaux. Sur l'autre côté, comme j'ai dit, en fait, c'est ce acte de Lord Elgin a aidé à mieux comprendre la culture grecque. Et on peut naturellement toujours, un des arguments principaux, c'est que grâce à Lord Elgin, ces sculptures ont été bien conservées. Hein. Et ça c'est vrai parce que si on regarde les sculptures que Elgin a laissées sur place, qui étaient jusqu'à il y a à peu près 20 années sur le bâtiment même, on voit quand même une différence de la conservation de la surface parce que les pièces laissées sur place montrent une corrosion très forte de la surface liée à la pollution d'Athènes qui était très forte notamment dans les années 80 et les statues qui ont été toujours protégées dans le musée à Londres montrent une meilleure conservation de la surface.
Mais que répond le British Museum pour dire qu'aujourd'hui, non, on ne vous les rend pas, ces marbres ?
Le problème, c'est que si un musée commence à retourner, donc il y aurait toute une suite...
Il y a tous les musées du monde qui pourraient s'y mettre, effectivement.
Qui vont se vider. Hein. Pensons à l'hôtel de Berkham, hein, qui est à Berlin, que les Turcs aussi réclament. Donc, moi, je dis toujours, ces musées, soit en Angleterre, soit en France, en Allemagne, mais aussi en Suisse, à Bâle, sont des ambassadeurs de la culture grecque. Hein. Donc il y a quand même aussi un aspect positif qu'il faut voir. Il suffit naturellement de dire qu'aujourd'hui on ne peut plus faire la même chose hein, parce que tous ces objets proviennent des fouilles clandestines, ce qui est absolument interdit et ce qui ne va plus aujourd'hui. Hein.
La route s'arrête soudain.
Un déluge, Bertrand Belin.
Au-delà de là, plus rien. Pas une empreinte de pas, plus rien. Quel tour m'as-tu joué? Je vais te trouver, c'est certain. Tu ne peux pas être bien loin, étouffant tes rires d'enfante, allongé sur le ventre, je vais te trouver, je vais te trouver. Un déluge pour toi, un déluge. Thank you. la soirée, j'ai cherché. Mon cœur ne s'est pas emballé par ma bouche l'air de l'été. Jaillit dans un sifflet de gaieté. Je t'ai retrouvé. Je t'ai retrouvé. Un déluge pour toi. Un déluge pour moi. Pour nous, un déluge.
Aujourd'hui, l'Acropole d'Athènes.
Karl Reber, dernièrement, la presse relayait une information selon laquelle un gisement de pétrole, peut-être immense, aurait été découvert sous la célèbre colline d'Athènes. Mais l'exploitation de cette mine d'or noire supposerait la démolition du Parthénon. C'est une blague ?
C'est une plaque, oui. Donc c'est une plaque qui a été en fait publiée le 1er avril, donc ça montre tout. En effet, il y a le pétrole, c'est une question en Grèce, parce que on sait qu'il y a probablement des réserves du pétrole, mais sous la mer, dans l'Égée, dans la mer Égée ou dans la mer Ionique, au sud de la Crète, près de l'île de Corfou. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il y en a assez pour justifier une exploitation. Donc naturellement, ça serait pour la Grèce quelque chose, notamment aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire s'il y a le pétrole en Grèce. Donc on pourrait gagner pas mal d'argent, payer les dettes, etc. Mais certainement pas sous l'Acropole, ça c'est exclu.
Vous parlez de la crise. Est-ce que le site de l'Acropole en a souffert ou en souffre encore aujourd'hui ?
Bon, le site d'Acropole est quand même un site où on regarde encore que c'est bien protégé. On a eu des problèmes, c'est clair. Bon, certains postes d'archéologues ou de restaurateurs ont été abandonnés, coupés. Le budget a été certainement coupé. Il y a les greffes des gardiens de temps en temps, ce qui évite les touristes de voir les monuments. Donc, il y a eu des problèmes. Mais en général, je pense, on peut dire, ça va encore. Donc, si on compare avec des autres sites qui sont dans un état beaucoup plus catastrophique, pour Athènes, on est encore bien.
Un millier de pièces devra survoler les 400 mètres qui séparent l'ancien musée de l'Acropole du nouveau, et parmi elles, des chefs-d'œuvre du patrimoine mondial. 300 statues en ronde bosse, amoureusement emmaillotées pour leur délicat voyage, des frontons entiers, des bas-reliefs de la frise du Parthénon. Certaines caisses transportent jusqu'à 2,5 tonnes de vestiges archéologiques. Leur destination, le nouveau musée de l'Acropole, un bâtiment dominé par le verre, 25 000 m² sur 3 niveaux. Sa construction a eu 3 ans de retard et coûté près de 130 millions d'euros.
On l'a évoqué tout à l'heure, le nouveau musée de l'Acropole d'Athènes. C'est un musée qui a été inauguré en 2009 et on le doit notamment à un architecte suisse.
Oui, c'est Bernard Tschumi. C'est un bâtiment assez intéressant. Hein. On entend plusieurs choses, des choses mauvaises, des choses bonnes.
Est-ce que c'est un bâtiment moderne ?
C'est très moderne, oui. C'est très moderne. C'est construit avec beaucoup de la façade en verre. Même les sols sont en verre. Et ça, je trouve intéressant parce que si on se promène dans le musée, on a toujours la vue en bas, sous le sol, où on a dégagé. Donc il y a eu des fouilles archéologiques, on a déjà dégagé un quartier de la ville d'Athènes de l'époque de l'Antiquité. Donc on a toujours ce lien avec l'Antiquité. On est dans un bâtiment moderne, mais en dessous, on voit les ruines de la ville antique. Et on est entouré, en fait, de tous ces objets, sculptures de l'Antiquité. Bon, il y a eu naturellement beaucoup de polémiques. Hein. C'était pas le premier projet qui a été réalisé. Hein. Avant Tchoumi, il y a eu plusieurs autres projets qui étaient toujours en discussion. Et finalement, on les a abandonnés. On a fait un nouveau concours, etc. Un des problèmes était aussi parce que Tchoumi voulait qu'on ait une vue entière depuis le musée sur l'Acropole. Mais actuellement, il y a encore deux maisons qui datent du début du XXe siècle, qui sont entre l'Acropole et le musée. Donc Tchoumi a dit qu'il faut les détruire, mais ces maisons font partie du patrimoine de la Grèce. Et ça crée aussi une grande discussion. L'autre point, c'est que certains archéologues disent l'exposition à l'intérieur, c'est très mauvais, on n'a pas une bonne lumière, et puis ces colonnes en béton à côté des marbres antiques, c'est pas très joli, etc. Mais moi, personnellement, je trouve... le musée me plaît beaucoup. Je trouve très beau, très bien fait, et il y a une réflexion derrière, parce que en fait, il y a une rampe où on monte à l'intérieur du musée, comme dans l'Antiquité, où on est monté sur la rampe, sur l'Acropole. Et ensuite, il y a ces différentes périodes, et tout en haut, il y a donc les restes du Parthénon, qui sont orientés exactement comme le bâtiment sur l'Acropole. Donc là, on a aussi une vue sur l'Acropole, on voit le Parthénon depuis là, donc ça s'est très bien fait, ces jeux de vision du musée sur l'Acropole et à l'envers, si on est sur l'Acropole, on voit en bas ce musée avec cette forme du Parthénon dans l'étage supérieur.
L'Acropole d'Athènes, c'est bien sûr le Parthénon. On en a beaucoup parlé d'ailleurs dans cette émission. C'est finalement le monument que l'on va voir. Mais il y a d'autres choses à visiter sur ce site.
Bien sûr. Donc, déjà, un monument assez impressionnant, c'est les propylées. Les propylées, donc la porte d'entrée dans l'Acropole qui a été construite juste après la construction du Parthénon par un architecte où nous connaissons le nom, qui s'appelle Mnésiclès. Ensuite, on a plusieurs petits sanctuaires à droite, comme par exemple un sanctuaire pour l'Artémis de Proron, mais qui ne sont pas plus bien conservés, il y a juste quelques murs qui existent encore. Et la même chose pour le vieux temple d'Athéna de l'époque archaïque, où il existe encore quelques restes de la fondation. Mais sur la gauche du Parthénon, il y a ce fameux Erechtheion, donc le bâtiment avec les colonnes en forme de cariatides, de jeunes femmes, que
de
tout le monde
beauté,
connaît.
Hein.
Oui, et qui a remplacé le vieux temple, qui a été construit aussi après le Parthénon, donc dans les années à peu près 20 du 5e siècle, mais qui a remplacé le vieux temple et qui est resté toujours, qui est le temple principal, comme j'ai expliqué, pour Athéna Polyate, donc la divinité principale de la ville d'Athènes.
Il y a tout le temps des restaurations sur le site.
Bien sûr, oui.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer ?
Le gros de travail est terminé maintenant, après, je sais pas, 30 ou même plus d'années. Hein. Donc, je vous ai raconté mes premiers souvenirs à l'Acropole, où on pouvait entrer dans le Parthénon, et puis on pouvait faire aussi des jolies photographies du Parthénon. Depuis ce moment-là, donc à partir des années 80, il y a toujours eu des échafaudages autour du Parthénon, de l'Erechtheion, des propylées, ce qui fait pas très joli sur les photos. Hein. Donc j'ai jamais vu depuis là le Parthénon sans qu'il y ait quelque chose autour de lui. Maintenant, ils sont quand même terminés et puis on voit que on peut revoir en fait le Parthénon comme avant. Et ils sont toujours en train de faire certains travaux au propylé, à l'érectéion, etc. Mais je pense que le gros des travaux est fait.
Mais vous, sur le site, de toute façon, vous êtes un privilégié. Vous pouvez voir d'autres choses que nous, on ne voit pas, non?
On voit peut-être plus de détails et puis on a naturellement plus de connaissances. Hein. Pour nous, c'est toujours bien d'aller avec des non-archéologues pour visiter l'acropole. Quand on explique un peu ces détails, donc on remarque que les gens sont très intéressés à savoir plus de ces bâtiments. Et naturellement, c'est toujours bien de visiter l'acropole accompagné par un archéologue.
Ben voilà, c'est ce qu'on vient de faire dans cette émission. Finalement, on a fait un peu cette balade avec vous. Merci beaucoup.
Merci à vous. J'espère que c'était
pas tout
acceptable, avec quelques fautes de français. Et puis
J'aimerais bien parler le suisse
allemand
comme...
Un dialecte palois, donc...
J'aimerais bien le pratiquer comme vous pratiquez le français, en tout cas. Merci.
Monumental.
Peter von Peul, dit archéologiste.
Monumental, prochain départ, le temple de Prévire, Cambodge.
C'est le site qui est le plus beau, parce que le temple, il y a beaucoup de temples khmers, comme le temple de Prévire. Mais l'endroit où se trouve ce temple est absolument extraordinaire. On a une vue sur l'ensemble du Cambodge. On est à peu près à pic, parce qu'il se trouve que la chaîne des Dangrek, qui sépare le Cambodge de la Thaïlande, est à peu près à pic du côté Khmer, tandis qu'on monte en pente douce depuis la Thaïlande. C'est vraiment une vraie barrière. Ça forme la frontière précisément. C'est la cause d'ennui comme toutes les frontières. Je m'appelle Claude Jacques. Je suis arrivé au Cambodge il y a un peu plus de 50 ans. Entre-temps, j'ai été membre de l'École française d'Extrême-Orient, puis directeur d'études à l'École des hautes études à Paris. Ce qui a un gros avantage, c'est que je peux encore donner des cours.
C'est Claude Jacques, archéologue, qui sera le prochain invité de Monumental pour nous parler de Prévir, un temple situé à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, un monument que l'on appelle le Temple de la Discorde, son histoire dans le prochain numéro de Monumental. L'émission de ce jour était consacrée à l'Acropole d'Athènes. Podcasts, informations complémentaires, archives sont consultables sur notre page internet, page sur laquelle vous trouverez un lien direct pour nous retrouver sur Facebook et bénéficier ainsi de contenus supplémentaires. L'équipe de Forum vous accueille d'ici quelques instants, juste après ce point routier.
Infotrafic RTS.
Le trafic est fluide sur l'ensemble des routes de Suisse romande. Dans le canton du Jura, la route cantonale reliant Courtemèche à Failly est fermée entre Courtemèche et Bure en raison de travaux. Une déviation est en place jusqu'à la réouverture prévue pour mi-septembre. Pour toute annonce concernant des perturbations de trafic, le numéro gratuit 0800 817 818 est à votre disposition.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Monumental, une émission de
Johan Dusset.
Réalisation
Marc Frochot.
Recherchiste
Stéphanie Coudray.
Programmation musicale
Karine Vouillamont.
rts.ch/monumental.
Dany Sula.
L'heure avec Retraite Populaire et ses solutions de prévoyance, retraitepopulaire.ch.